Vous écoutez, on lit pour vous.
Rapport sur le racisme systémique dans les écoles, des pistes de solutions. Un texte de Gwendoline Lebeaumin paru le 29 mai 2025 dans l'Aurore boréale. Après plus d'un an de recherche et d'entrevues, plusieurs organismes yukonais ont publié, au début du mois de mai, un rapport offrant un examen des effets négatifs du racisme sur les élèves autochtones et les autres élèves de couleur du Yukon, tout en proposant une voie à suivre grâce à des appels à l'action. Le rapport, intitulé « Pour nos enfants, examen du racisme systémique dans l'éducation au Yukon »,« For our children, a review of systemic racism in Yukon education », a été publié le 1er mai. Nous avons rédigé ce rapport à la demande de la Commission de l'éducation des Premières Nations et du Comité des chefs sur l'éducation qui reconnaissent le racisme dans l'éducation, en particulier pour les élèves autochtones, mais aussi pour les élèves de couleur. Nous avons intégré la voix des jeunes, d'anciens élèves et des éducateurs, et nous avons examiné tous les autres rapports récents qui soulignaient déjà une discrimination dans les résultats des élèves autochtones, résume Annette King, défenseur des enfants et de la jeunesse du Yukon. Les données indiquent clairement que les élèves des Premières Nations du Yukon n'obtiennent pas leur diplôme aussi souvent, qu'ils ne réussissent pas aussi bien à l'école. Et ce n'est pas à cause de leur incapacité, rapporte-t-elle. C'est parce que, parfois, c'est à cause d'une culture de faibles attentes ou à cause d'une culture de discrimination comportementale. Il y a donc des élèves qui, dès le début de leur carrière, ont l'impression d'être ciblés comme des problèmes de comportement qui doivent être retirés de l'école ou punis. Il leur est alors très difficile d'aller de l'avant avec la fierté de réussir sur le plan scolaire. Quelles actions? 25 recommandations ont été formulées dans le rapport. La première recommandation était de rendre ce rapport public, rapporte Mme King. La deuxième recommandation prévoit un rapport en juin, puis en décembre et chaque mois de décembre par la suite, pour faire état des mesures prises face aux problèmes. Nous avons également formulé des recommandations sur l'apprentissage par l'expérience et le soutien à l'élaboration de programmes d'études fondés sur l'expérience. Nous leur avons demandé d'élaborer une stratégie de lutte contre le racisme, ce qui implique une formation obligatoire pour les éducateurs et l'apprentissage de la culture des Premières Nations, mais aussi des approches de lutte contre le racisme. Pour Annette King, il faudrait avoir une meilleure représentation de la population autochtone au sein des écoles. Beaucoup d'éducateurs ne sont pas originaires du Yukon, et nous attendons d'eux qu'ils enseignent la culture et l'histoire des Premières Nations du Yukon. C'est donc très difficile pour ces éducateurs de le faire, même s'ils ont les meilleures intentions du monde et qu'ils essaient de faire venir des gens. Nous demandons donc à nos éducateurs d'essayer de résoudre eux-mêmes ce problème. C'est pourquoi nous parlons de racisme systémique. Nous avons besoin d'un système qui soutient l'inclusion et la célébration de la culture et de l'appartenance. Le ministère de l'Éducation a la responsabilité de mettre en œuvre des mesures. Et nous recommandons qu'il travaille avec le Conseil des Premières Nations du Yukon, la Direction de l'Éducation des Premières Nations du Yukon, le Comité des chefs et toutes les nations, informe Mme King. Du côté francophone, un cours de justice sociale est offert aux élèves du CSSC Mercier. Simon Langlois, enseignant à cette école, anime pour la première fois ce cours optionnel en sciences humaines pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans. On a fait des études de cas. On a abordé les principes d'action ressources, l'équité, la participation aux enjeux politiques, la démocratie, la diversité, les droits de la personne, entre autres. L'enseignant a également abordé le rapport sur le racisme systémique. Il rapporte que plusieurs membres de son groupe d'élèves sont immigrants, immigrantes, et qu'un d'entre eux est proche des Premières Nations. C'est sûr qu'eux autres se sentent interpellés. Ce sont des jeunes qui sont déjà exposés, donc ça a amené de bonnes observations et de bons sujets de discussion. Pour eux, ce n'est pas forcément facile au niveau de l'emploi, du logement avec leur famille. Eux-mêmes ont des exemples que ça n'a pas été facile et que ça ne l'est pas encore pour trouver un emploi pour l'été, par exemple. Concernant le racisme linguistique, Simon Langlois rapporte que les élèves ont toujours ce sentiment que s'ils ont un accent quand ils parlent anglais, ils sont jugés et mal perçus. De l'autre côté aussi, certains, en parlant français, se sentent jugés parce qu'ils ont un accent, car leur dominance est en anglais. On dirait que la majorité des élèves, ce sont des deux côtés qu'ils sont mal à l'aise. Si on ajoute une autre minorité par la couleur, ce n'est pas facile ici pour beaucoup de jeunes de se sentir acceptés et de ne pas subir une forme de racisme, affirme M. Langlois. « Ce n'est pas le pire endroit que j'ai connu dans l'Ouest », reconnaît-il cependant. Annette King rapporte qu'aucune mention de racisme systémique ne figure auprès des francophones à travers les entrevues réalisées ou dans les témoignages recueillis. Il est intéressant de noter que nous n'avons trouvé aucune famille francophone, actuelle ou ancienne, qui se soit sentie discriminée en raison de son héritage francophone. Nous avons trouvé des élèves autochtones dans le système français, comme dans certaines autres écoles, où leur culture autochtone n'était pas aussi célébrée dans les écoles françaises. C'était « Rapport sur le racisme systémique dans les écoles, des pistes de solutions », un texte de Gwendoline Lebeaumain, paru le 29 mai 2025 dans l'Aurore boréale.
Quels mots utilisent les Québécois dans leur région? Un texte de Caroline Montpetit, paru le 21 juin 2025 dans Le Devoir. Tout le monde sait ce que c'est d'être quétaine au Québec. Mais peu de gens savent que ce mot, dans le sens de kitsch ou de goût douteux, nous arrive de Saint-Hyacinthe, où il a été popularisé par les comédiennes André Champagne et Juliette Pétry, avant d'être répandu un peu partout par Dominique Michel et Denise Filiatro. À l'origine, le mot « quétaine » était le féminin de « quétain », un mot utilisé en France pour parler de quelqu'un qui quête. C'est en tout cas ce qu'on apprend dans le balado « Comment tu dis ça? » de la Fédération québécoise des municipalités sur les régionalismes du Québec. Certains mots, comme « quétaine », ont émergé d'une région pour se répandre un peu partout au Québec. D'autres ont continué à circuler en milieu local. La bardane, par exemple, est une plante invasive, aux fruits piquants, dont on ne se débarrasse pas facilement. Daniel Lanouette, un lecteur du Devoir vivant à Shawinigan, nous raconte ce qui suit. Je viens de Ville-Marie, au Témiscamingue, et là-bas, on appelait la bardane Krakia. J'ai habité 35 ans à Montréal et c'est là que j'ai appris le mot bardane. J'habite maintenant à Shawinigan et ici, on ne connaît pas le mot Krakia. Et on n'utilise pas vraiment le mot « bardane » non plus. On dit plutôt « des pics-pics ». Partout au Québec, la langue a ses accents, ses régionalismes, ses expressions familières, qui resserrent les groupes et tissent un lien sonore dans les communautés. En Beauce, on parle de « plé », P-L-E accent aigu E-S, pour désigner un terrain marécageux où les arbres poussent difficilement. Au lac Saint-Jean, le baignage désigne des zones touchées par la montée des eaux du lac Saint-Jean. Sur la rive sud, dans la région de Trois-Rivières, on dit « snout », S-N-O-U-T, pour parler de hockey-bottine. Le mot « snout » s'utilise presque uniquement sur la rive sud de la région de Trois-Rivières, principalement dans le centre du Québec, et parfois aussi en Mauricie, raconte le linguiste Gabriel Martin. Ce qui est plus étonnant, c'est que le mot « snout » est resté cantonné à sa région, même s'il existe depuis un bon demi-siècle. On retrouve en effet ce mot dans les journaux dès les années 1970. L'origine du mot est obscure, mais il se pourrait bien que le mot « snout » soit une onomatopée qui évoque le bruit des semelles qui collent sur le sol quand on joue. Dans certaines villes autour du lac Saint-Jean, les gawas, G-A-W-A-S, désignent des femmes qui font ce qu'elles veulent, qui ne s'en laissent pas imposer, expliquent des femmes de la région interrogées dans le balado. Dans Lanaudière, particulièrement aux alentours de Joliette et de Repentigny, on dit pipo, P-I-P-O-S, pour parler de pantalon de jogging, ajoute Gabriel Martin. Le mot désigne un vêtement assez informel, mais il n'est pas péjoratif en soi. Il se pourrait, dit-il, que le terme, issu des années 1980, soit un dérivé de pyjama. Des mots qui déménagent. Mais les mots, comme les gens, circulent aussi et déménagent. Je viens du Témiscamingue, région colonisée principalement par des Beaucerons et des Lanaudois à la fin du 19e siècle, nous raconte le lecteur Arnaud Neveu. J'habite à Montréal depuis plus de 20 ans et quelques régionalismes apparaissent frappants à tout coup. Certains se recoupent avec l'Abitibi également, possiblement avec d'autres régions, principalement Gatineau. Certaines expressions qu'il cite sont familières aux oreilles de bien des Québécois. « Air soudre » ou « air tontir » pour « arriver ».« Se faire lutter » pour « être heurté par une voiture » ou le mot « stépine » pour parler des sous-vêtements. Fabien Cloutier s'est beaucoup intéressé au régionalisme dans son livre « Trouve-toi une vie ». « Il farme pas étanche » est un exemple qui lui vient de sa Beauce natale, une expression parfois utilisée pour quelqu'un qui ne sait pas garder un secret, une confidence. On m'a dit que c'est utilisé dans plus d'une région, écrit-il. Mais ce qui en fait un régionalisme beauceron dans le cas présent, c'est qu'on prononce « y farme » au lieu de « y ferme ». Dans le balado « Comment tu dis ça? », la comédienne Ève Landry, originaire de Saint-Pascal dans le Kamouraska, raconte pourtant que son père disait « de l'arbre pour de l'herbe, et on y apprend qu'on dit aussi de l'arbre dans le Pontiac. Or, sachez que la prononciation A pour E accent grave, comme dans Sarge pour Serge ou Vierge pour Vierge, faisait partie du parler populaire de la France au 17e et 18e siècle. Selon Chantal Bouchard, qui a consacré un ouvrage, « Méchante langue », à l'histoire de ces variations. Dans son livre, Fabien Cloutier relève cette expression qui nous viendrait de Shawinigan. « Se sentir comme une truite suasfate » pour dire qu'on a très soif. Il situe à Québec l'origine des expressions « Yen kawer on webin » et être sur la coche. C'est de Drummondville que viendrait, selon lui, l'expression « c'est pas vargeux », qui veut dire « ne pas être fameux, extraordinaire, en ballant ». Je trouve que dans les régionalismes, il y a souvent une débrouillardise dans l'utilisation de la langue. On a développé une façon de créer des images. C'est cette débrouillardise-là que j'aimais beaucoup. Et je trouve que souvent les expressions, les régionalismes, sont plus forts que le mot idéal pour dire quelque chose, dit-il. Il cite l'expression « se badrer » qui vient de l'anglais « to bother » que des ouvriers ont sans doute ramené au Québec de séjour aux États-Unis. Les mots d'antan et ceux d'aujourd'hui. Les régionalismes sont souvent associés à un parler issu de la vie rurale et typique d'une autre époque. Plusieurs termes agricoles québécois seraient originaires de la Perche, dans le sud de la Normandie, expliquent les experts consultés dans le balado « Comment tu dis ça? » C'est de là que viendraient des mots du terroir comme « tasserie » ou le verbe « empocheter ». Mais aussi, bon nombre de patronymes très répandus ici, comme « trembler »,« bouchard » ou « gagner ». Mais au-delà de cet héritage, de nouveaux régionalismes font régulièrement surface chez les jeunes. En Estrie, par exemple, la génération des millénarios dit « goustrou », G-U-S-T-R-U, pour parler d'un truc ou d'un machin, relève le linguiste Gabriel Martin. Parfois, ça dure le temps d'une génération, puis ça disparaît, constate-t-il. Dans la foulée de la révolution numérique, où chacun voyage sur son écran, de jeunes internautes québécois vont adopter les expressions des YouTubeurs français qu'ils suivent. Et c'est par là que des expressions comme « s'en battre les couilles » ou « avoir la flemme » se répandent au Québec. Dans son « Dictionnaire du chiller », Jérôme 50 cite encore des régionalismes comme « chouiner » du lac Saint-Jean, qui signifie « dire des balivernes »,« fabuler »,« mentir ». Durant le 20e siècle, vraiment, on a vu une grande disparition des régionalismes, remarque le linguiste Gabriel Martin. Le français québécois s'est vraiment homogénéisé. Ça, c'est une constatation. C'était « Quels mots utilisent les Québécois dans leur région? » Un texte de Caroline Montpetit, paru le 21 juin 2025 dans Le Devoir.
L'incroyable année de Kellyanne Desrosiers, un texte de Simon Bolduc de l'Itinéraire, paru le 21 juin 2025 dans La Presse. Il y a un an, l'Itinéraire rencontrait Kellyanne Desrosiers alors qu'elle terminait son parcours dans le programme Maison Ronde. Attablée dans le Square Cabot, elle racontait comment elle s'était réhabituée au monde à la suite de la naissance de son deuxième enfant. Seule avec un bambin à la maison et un enfant au primaire, elle a tout de même réussi à développer sa fibre entrepreneuriale en ouvrant sa propre compagnie de création de bijoux et de vêtements d'inspiration inuite. Depuis, celle qui a été adoptée et élevée par deux parents à Lockton, à Montréal, ne cesse de se reconstruire autour d'une identité inuite forte. Il s'en est passé des choses dans la vie de Kellyanne ces deux dernières années. Si, en 2023, elle effectuait son premier voyage dans le Grand Nord depuis une expérience de travail à 18 ans à la mine Raglan à Katinic, les 12 derniers mois ont été marqués par plusieurs allers-retours entre Montréal et Cour-Ourgeoac, Cou-Ourgeoac, Cac-Tac. Cour-Ourgeoac a été le plus beau voyage de ma vie, témoigne-t-elle. On a campé en pleine nature, dans une tente traditionnelle, toupic, j'ai chassé le lagopède, skinné un caribou, monté des montagnes et regardé les aurores boréales. Je me sentais connecté à tout. Ces voyages immersifs, visant à se reconnecter avec sa langue, avec le territoire, avec sa culture et avec ses traditions, ont été possibles grâce au programme Nunavik Shivunit Savut, qui propose une expérience collégiale d'une année pendant laquelle les étudiants apprennent l'Inuktitut et les enjeux liés au territoire du Nunavik. Non seulement cela lui a permis de retourner sur les lieux d'origine de sa famille, mais elle a aussi appris des savoir-faire traditionnels qu'elle intègre à son travail de créatrice. Entrepreneur. Depuis qu'elle a commencé à créer des bijoux et des vêtements d'inspiration inuit en 2019, on peut dire que ses affaires vont bien. Son visage apparaît d'ailleurs sur la nouvelle campagne de Desjardins qui met de l'avant des personnes aux projets entrepreneuriaux divers. C'est grâce à l'agence Ninan, gestionnaire d'artistes issus des premiers peuples, qu'elle a pu prendre part à cette vaste campagne publicitaire. Sur sa page Instagram, qui lui sert de vitrine pour ses créations et ses voyages dans le Nord, on peut voir des bracelets en pierre semi-précieuse, des colliers, des boucles d'oreilles, des figurines, ainsi que des créations récentes qu'elle a pu réaliser grâce aux enseignements traditionnels reçus dans le Nord. On peut voir, entre autres, un magnifique arnautique, un manteau inuit traditionnel qu'elle a confectionné grâce à sa professeure Jni Papikatuk, qui lui a enseigné la couture. Elle a 30 ans de savoir-faire. Grâce à elle, je peux maintenant réaliser des projets de couture à la machine. Tout va pour le mieux pour son artisanat et elle souhaite continuer d'apprendre de nouvelles choses autour de l'art inuit, oui, mais aussi du chant et de la danse. Comme à l'été 2024, elle fera la route des Powwow pour y vendre et y promouvoir son travail. C'était l'incroyable année de Kellyanne Desrosiers, un texte de Simon Bolduc de l'Itinéraire, paru le 21 juin 2025 dans la presse.
Des histoires de lesbiennes que vous n'avez pas entendues. Un texte de R. Pratka, paru le 23 juin 2025 dans le magazine Fugue. Un soir d'août 2024, au coin d'une rue dans le Mileland, une lesbienne de 50 ans a vomi dans les rues après avoir passé la soirée à fumer de l'herbe et boire du vin nature. Elle s'est sentie vivante et libre. Non loin de là, le 13 mai 2005, une lesbienne, âge inconnu, a trouvé un sac plein de bagels en faisant du dumpster diving. Elle les a distribués à un after-party, sauvant l'assistance d'un manque de glucides potentiellement dévastateur. Ces tranches de vie savoureuses seraient restées des anecdotes entre amis, n'eût été le Lesbian Mapping Project, projet de cartographie lesbienne, un projet d'art participatif lancé à Philadelphie l'an dernier par l'artiste multidisciplinaire américaine Beth Schindler. Porté par un réseau informel d'artistes lesbiennes et un gabarit facile à reproduire, le projet a fait des petits à Montréal, New York et Barcelone, entre autres villes. Beth Schindler est une artiste et galeriste basée à Austin, au Texas. L'an dernier, elle est allée à Philadelphie dans le cadre d'une résidence offerte aux artistes lesbiennes de 40 ans et plus par le Dyke Plus Art House, un centre artistique pour la communauté lesbienne, queer, trans et féministe. Un jour, elle est allée consulter l'archive gay et lesbienne de la ville. De là, elle est partie faire une visite autoguidée de Philadelphie, à partir des suggestions sur une carte interactive offerte à l'archive. Les histoires qu'elle découvre en parcourant les sites historiques ne sont pas toutes tragiques, tristes, traumatisantes, mais elles le sont en bonne partie, raconte-t-elle en entrevue. Les groupes marginalisés sont souvent représentés, en particulier dans les archives, à travers ces tragédies, ces événements vraiment horribles, alors que oui, c'est arrivé, mais nous sommes bien plus que ça. Elle avait envie d'utiliser le format des affiches de sites historiques pour raconter des histoires de légèreté et de joie. Elle a fait appel à ses contacts et aux amis d'amis et a préparé une grosse batch de colle de farine. Le Lesbian Mapping Project était né. Elle voulait contrecarrer le stéréotype selon lequel les lesbiennes n'ont pas d'humour, qu'elles sont renfermées, face de bœuf. Elle apprend l'expression pendant notre conversation ou réduite à leur sexualité. J'adore être gay. Je sais que c'est un privilège de pouvoir dire ça, mais il y a tellement de joie, de ridicule, de plaisir, d'humour, de sensualité. Plus tard, le même été, elle rend visite à des amis à Montréal, dont des membres du groupe électro-folk queer Lesbians on Ecstasy, qui font de la joie lesbienne leur marque de commerce depuis plus de 15 ans. Le projet a tout de suite résonné avec Bernadette Hood, restauratrice, artiste multidisciplinaire et cofondatrice du groupe. Ce sont des histoires drôles, ridicules. C'est vraiment le fun de voir ta culture représentée de cette façon. Bien que dans certaines autres villes, les affiches prennent des libertés avec la vérité, Bernadette Hood précise que les histoires montréalaises sont toutes vraies. Lesbians on Ecstasy remonte sur scène, pour la première fois en plus de 10 ans, à la Soterranea, dans le cadre du festival Suoni per il Popolo. Dans le cadre du même festival, Beth Schindler présentera son installation vidéo « Six Tits and a 12-Pack », une célébration de l'amitié queer. On va potentiellement en profiter pour faire un événement pour recueillir des histoires, parce que quand les gens nous voient, elles disent « Oh, oh, j'ai une histoire », dit Bernadette Hood. C'est important pour les gens queer d'avoir du fun, parce qu'on sait que les gens vivent des choses dures en ce moment. C'était « Des histoires de lesbiennes que vous n'avez pas entendues », un texte de R. Pratka, paru le 23 juin 2025 dans le magazine Fugue.